Merci pour votre présence. Je vais tout de suite laisser donner la parole à Gilberto qui va peut-être vous raconter des petites choses aussi intéressantes du film, notamment de la musique et des choses qui font un petit peu penser à d'autres films aussi de l'époque,
oui.
Films de terreur. Là, on parlait justement du film de Tessis, qui est un film de... je vais le dire, Amenábar. Alejandro Amenábar, donc un film aussi culte qui avait fait aussi The Others, Les Autres,
hein?
Oui. Et Los Otros en espagnol.
Sí.
Donc avec même genre, peut-être un petit peu le même genre de film. Donc, je peux passer à toi.
Bon, merci. Bueno, notre chef opérateur, Wolfgang Burman, il a travaillé comme caméra en Tessis. Il a utilisé quelques astuces, par exemple, pour illuminer à l'intérieur très sombre, avec une petite ampoule à chaque fois que le personnage allumait avec un phosphore, comment se dit avec un phosphore.
Comme un farolillo.
Non, quand il encendait un phosphore, le personnage.
Ah, une allumette.
Une allumette. Ce n'est pas possible vraiment tourner en cinéma avec une allumette. Il faut utiliser une petite ampoule cachée à l'intérieur de la main du personnage. Il avait des astuces comme ça parce qu'il avait travaillé avant en Tessis avec Amenábar. Et le deuxième assistant de réalisation, c'est Pablo Larraín, qui aujourd'hui est un réalisateur très connu, chilien. Il a travaillé avec nous. On a tourné en deux années différentes à cause de l'argent. Ça a été un film low budget, difficile de trouver l'argent. Et ça a été mon premier scénario, mon première production. Et une fois qu'on avait plus de moyens, on a fait un pause une année. Et après, pour recommencer avec les acteurs et tout le monde de l'année suivante, et la musique, les sons, c'est les choses que j'aime plus. Hein. L'atmosphère, tous les sons, la musique. On a travaillé avec des musiciens chiliens, Fractal. À l'origine, mon idée était d'utiliser... je suis le producteur et le scénariste. C'est un ami qui a fait la réalisation. Mais j'avais envie de travailler avec les anthropologues du musée de musée précolombino du Chili. Ce sont des anthropologues qui, de temps en temps, ont l'opportunité de jouer avec les instruments inca et chilien qui ont été trouvés dans les tombes anciennes. Et avant de ranger les instruments, ils ont la possibilité d'enregistrer les sons. Ce sont des instruments qui font une seule note chacun, qui normalement a la sonorité d'un oiseau, de l'eau. Et j'ai essayé de travailler avec les musiciens anthropologues, qu'on avait toute une culture un peu de chaman, de prendre des drogues, des plans de pouvoir avant d'enregistrer la musique, en plein obscurité. C'était vraiment bizarre la session d'enregistrement de son. Mais ça ne marche pas finalement, parce que la musique précolombina n'a pas de notes et pas de mélodies. Ce sont des choses atonales, ce sont des sons comme « waouh, waouh », ce sont des masses de sonorités. Et on essayait de faire ça, un mélange entre ça et les images. Ça ne marche pas. Et finalement, on a travaillé avec des musiciens un peu plus jeunes, un fractal, qui jouaient avec des instruments de différentes cultures, chiliennes, inca, et de l'Australie aussi. Il y a des sons très étranges. Oui, il savait déjà quelques enregistrements de la musique de la culture Selkna, du sud du Chili. C'est la même qui apparaît dans le troisième en Cochrane, la mythologie Selkna. Et ils ont utilisé aussi des pierres, des bricks, ladrillos.
Oui, des bricks.
Bricks, pour faire des sons étranges. Et ils ont joué quelques notes à l'inverse aussi, pour donner un peu d'atmosphère. Et on a bien bossé pour faire les sons, la musique, et les sons, l'ambiance. Et on a utilisé aussi des instruments, des différents instruments, mais aussi des sons mélangés déjà, des sons industriels. À l'époque, un des ingénieurs de son de David Lynch avait commencé à vendre le mix de différentes sonorités industrielles qui sont comme un cœur qui bat, mais sont des machines. Ils sont tous utilisés aussi en la basse, mélangés avec la musique de temps en temps. Mais tout ça pour donner l'atmosphère. Tu m'avais posé la question de l'adaptation, de quelle chose c'est possible de montrer, quelle chose c'est pas possible de montrer. On a décidé de ne pas montrer les créatures et jouer un peu avec l'ambiguïté de dire c'est qui les monstres finalement. Et il y a une conspiration pour que le personnage principal croit qu'il a devenu le monstre, ou les monstres sont vrais, ça existe. Pigman lance à la fin un cœur, mais c'est un cœur à le spectateur aussi, non? Et il y a une... C'est... Toutes les choses qui apparaissent dans les films sont vraies. Les souris sont souris de laboratoire blanc qui ont été maquillées dans les secousses du Chili. Et les squelettes sont vrais squelettes de l'école de médecins de l'Université du Chili, c'est-à-dire sont un vrai cadavre. Et toutes les choses qui apparaissent dans la salle de bain de Pigman en Santiago et au Chiloé sont des morceaux des animaux qu'on a achetés au marché, des cœurs, des poulmons. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire une chose comme ça, mais ce sont déjà 20 années qui sont passées. Et l'odeur de ça, la fin du tournage, deux semaines après, c'était horrible, horrible. Et nous sommes allés à la île de Chiloé à tourner, 1000 km au sud de Santiago. C'était vraiment un cauchemar, le tournage, très Lovecraftien. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais je pense que c'est plus intéressant d'écouter des questions, s'il y a des questions de la part de votre part. Oui. Oui, le modèle de Pigman s'appelle. C'est un conte de 8-10 pages que j'ai lu l'année 92 au Chili en espagnol et qui m'a volé la tête. Parce que j'ai trouvé que le conte, c'était vraiment une allégorie du rôle de l'artiste qui montre des choses que la société n'a pas envie de voir, peut-être. Mais ça, c'est le vrai rôle de l'artiste, montrer des choses qui sont cachées normalement. J'ai trouvé que le conte avait un potentiel comme allégorie. Pour faire une adaptation audiovisuelle. J'ai fait après une adaptation en BD aussi, le 2009. À l'origine, mon idée, ça a été de tourner les films, la BD, les sites web, la musique, tout ça en même temps. Mais ça a été très difficile de tourner les films. J'étais trop fatigué à la fin. Et ils sont passés 9 ans pour finir la BD avec deux artistes, le 2009. Mais j'ai eu le plaisir de présenter la BD le 2017 à Angoulême, et dans le stand du Chili. Pour la première fois, Chili avait un stand à Angoulême le 2017. Je suis allé avec la BD et j'ai rencontré à Herman, l'illustrateur de la Belgique, qui a créé Bernard Prince, qui a été une lecture de l'enfance pour moi. J'étais très content, finalement. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui.
Quelle caméra est-ce que vous aviez utilisée à l'époque?
Ah oui.
Le matériel, des choses comme ça.
C'est le vrai cinéma, c'est 16 mm. C'est une seule caméra, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le personnage avait des dialogues, il faut tourner d'un côté, de l'autre côté, à l'ancien. Une seule caméra cinéma argentique, et parce que le scénario avait gagné un prix, ça a été mon premier scénario, mais il a gagné deux prix au Chili. Et en de prix, ça a été de quelques, comment est-ce que ça dit, de latas de película.
Des pontes.
Non, les boîtiers
ou des boîtes de films de 16 mm. Voilà, j'avais un peu d'argent et un peu de films pour commencer. J'étais obligé de devenir producteur pour tourner les scénarios. Et ça a été un long chemin. Et finalement, le film a été terminé. Et la copie pour le cinéma, ça a été enregistré en vidéo, Betacam. Et ça a été le deuxième film dans l'histoire du cinéma au Chili, et présenté en vidéo. Le premier, ça a été un film de Boris Kersia, l'auteur de Asphalte. Oui, LCD. Mais à l'époque, ça a été une innovation de présenter un film en vidéo, mais a été tourné en cinéma. Tous les scratchs de l'image sont vrais, sont de vrai matériel original, et tous les drops sont de la copie en vidéo. Ça c'est rigolo parce qu'aujourd'hui les gens ont des logiciels pour faire la simulation de la texture, mais ça c'est la vraie texture, c'est à l'ancien. Voilà.
C'était un des premiers films de terreur au Chili.
Oui, oui.
Et du coup, est-ce que les gens ils se sont vite adaptés à ce genre de nouveau film? Il y a pas eu
Oui, oui. En même temps, le film a été présenté en octobre 2000 au Chili. Et en novembre et décembre, a été c'est un moyen métrage. À la fin de la même année, ça a été présenté un autre film qui s'appelait Angel Negro, de terror aussi. Et le cinéma a commencé à s'ouvrir à différents genres. Aujourd'hui, tu peux trouver différents genres au Chili, mais à l'époque, c'était difficile de tourner. Je me souviens qu'il y avait un autre tournage cette année, un seul, d'un film d'un millionnaire chilien devenu producteur, avec Peter Coyote, Elizabeth Berkley, l'actrice de Showgirls de Verhoeven. Ça, c'était la grande production. La nôtre, ça, c'est un petit film. Mais dans le même quartier, tous les bâtiments demi-abandonnés à l'époque, aujourd'hui sont des restos chics et tout ça, sont dans les quartiers du centre-ville, sont des vrais bâtiments qui à l'époque étaient presque abandonnés, avec des trous très dangereux entre les étages. Et ils tournaient de l'autre côté de la place, en même temps que nous. Mais ce sont deux films qui ont été tournés à l'époque. Mais aujourd'hui, les cinémas chiliens vivent un bon moment. Il y a un film animé qui a été nominé à l'Oscar, un short film animé chilien qui a été nominé cette année. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une autre question.
Oui, merci.
Oui.
Et quelle est la chose la plus difficile de montrer dans le film pour l'époque où il n'y avait pas de moyens?
Pardon, je n'ai pas écouté bien.
Sí, pero todo el mundo no entiende. Pregunta. Je vais traduire. Donc, ce qui a été le plus compliqué à réaliser,
oui.
En raison des moyens en fait de l'époque.
Oui, oui.
Technique ou économique? Technique.
Technique. On aurait bien aimé avoir plusieurs caméras, hein. À l'époque, Hollywood avait déjà des films tournés avec 15 caméras, les films de John Woo. on a travaillé avec une seule caméra. Et au niveau technique, il n'y avait pas un grand développement des effets, les effets spéciaux.
Les effets spéciaux.
Les effets spéciaux. La maquillatrice, maquillatrice, c'est dit?
Maquilleuse.
Maquilleuse. El director de arte, Carlos Garrido, él ha emigrado après a Hollywood, la dame que hace el maquillaje avec notre director, le maquillaje de cadáver, que c'est moi. J'étais 4 horas a la morgue de Santiago por hacer el maquillaje comme ça, avec látex, poussière, de foils séchés, de choses comme ça. Et les gens de la morgue arrivaient de temps en temps pour dire un peu plus bleu ici, un peu plus rouge là-bas. Parce que c'est un vrai lieu. Non? Et le plus difficile, c'était d'avoir la permission pour utiliser les bâtiments. Les égouts sont vrais. Les égouts qui apparaissent, qui sont énormes, sont dans les centres-villes au Santiago. On a tourné une banquette de sambre. C'est au Chili l'été déjà. Et il pleut. Et à chaque fois qu'il pleut dans les égouts, il y a une inondation. Et nous étions obligés de nous échapper en plein tournage et de tourner deux fois. Et ça a rendu 100% plus cher le tournage dans certains endroits. Il faut payer tout ça, payer à tout le monde, l'équipement. Ouais. Ça a été le plus difficile, tourner avec pas grande quantité d'argent et dans de vrais lieux à chaque fois. À Chiloé, nous sommes allés, les réalisateurs, les chefs opérateurs avec la caméra, moi, pas l'acteur. C'est le réalisateur lui-même qui a doublé l'acteur dans le ferry. Et avec mon vêtement, qui c'est un vêtement de journaliste que j'avais utilisé pendant 10 ou 15 ans après. Mais ça a été le plus difficile. Il n'y avait pas les moyens pour aller librement à tous les endroits. Il n'y avait pas vraiment le temps aussi. Le tournage dans la maison de Pigman, qui ce n'est pas vraiment à la île de Chiloé. Les paysages sont de Chiloé, mais la maison de Pigman, c'est pas loin de Santiago. C'est une vieille maison de la compagnie de l'eau du Chili, qui a été demi-abandonnée à l'époque. Et il avait 50 personnes. Ça, c'est le jour plus cher. 50 personnes pendant le tournage, plus les pompiers pour faire la pluie. On a utilisé deux camions, je pense, pour faire la pluie. Mais il y avait des autres moments que nous sommes allés, trois personnes au sud du Chili, pour faire quelques inserts de paysage. pour donner un peu de plus de vérité à l'histoire. Mais c'était difficile. Le tournage a été réalisé en 97 et 98. Et les 99, le montage, tout le son, la musique, tout ça, changer les musiciens. Et les 2000, le film a été présenté au Festival de Valdivia au Chili. Et en novembre, au Festival de San Sebastián en Espagne, à la sélection de Best of the Year, le meilleur de l'année, avec des films de Hollywood et tout ça, parce que pour les Espagnols, ça a été une surprise d'avoir un film chilien inspiré en Lovecraft. Et l'accueil a été très bon. Et après, a été diffusé à la télé aussi en Espagne, en Argentine, en Mexico. Et l'édition en DVD, parce qu'aux États-Unis, il y a un festival consacré à Lovecraft en Oregon. Chaque année, The H.P. Lovecraft Film Festival. Et le directeur a adoré le film, il a fait la version DVD pour Canada et aux États-Unis aussi. Et ça, c'est la copie que vous avez regardé. Ça, c'est une copie un peu plus comprimée, c'est dit. Mais c'est ça, c'est ça. Mais ça n'était pas facile, mais pour moi, ça a été l'origine d'un métier comme scénariste et producteur après. Mais j'avais envie de partager le film avec vous parce que c'est une adaptation de Lovecraft. C'est l'auteur qui m'a inspiré aussi pour faire le crossover avec la littérature historique, la saga de Cochrane et Cthulhu. C'est l'univers de Lovecraft qui a inspiré plusieurs réalisateurs, artistes de la BD, des écrivains. On a parlé de Stephen King, Guillermo del Toro. C'est vraiment un auteur très important. Ce n'est pas seulement un écrivain de terreur, c'est un bon écrivain, finalement. Et je recommande la lecture. Si vous ne connaissez pas encore Lovecraft, je vous recommande la lecture de cet écrivain parce que c'est magnifique. Voilà.
Ben, déjà, je voulais dire que c'était assez impressionnant que vous ayez pu avoir autant de lieux réels. Et en dehors des médecins de la mort, de ce que j'ai compris, qui venaient de dire à peu près à quoi ça devrait ressembler un cadavre, est-ce qu'il y a d'autres on peut dire experts qui ont aidé? J'ai entendu qu'il y avait des pompiers qui avaient aidé, mais plus pour un côté technique. Mais il y a d'autres personnes qui ont pu aider pour d'autres éléments du film?
Oui. Alors, à la morgue, oui. Tous les gens de la morgue nous ont donné quelques conseils pour faire la scène du cadavre. Et notre directeur artistique avait une grande expérience. Il a enseigné beaucoup de choses à la maquilleuse. C'était important aussi. Il avait travaillé avec Miguel Littin, avec tous les réalisateurs historiques du Chili. Ça a été un grand soutien aussi. Les caméramans, les chefs opérateurs qui venaient de travailler avec Amenábar en thèse. Et quelle autre chose? Ah, à niveau de contenu, l'acteur qui a fait le professeur Matotti avec des lunettes, Luis Alarcón, c'est un acteur qui travaillait avec Raúl Ruiz. Le voice-over de Nelson Villagra, c'est un autre grand acteur que j'adore, qui a inspiré un personnage qui apparaît seulement en off dans le film qui s'appelle El Evaluador, non? L'Evaluateur. Ça, c'est le titre de roman que je suis en train d'écrire à Valdebrié. Ça, c'est un personnage qui va avoir son spin-off. Bonne année avec l'idée dans la tête. Luis Alarcón était très concerné à propos du côté magique, on dirait, du film. On parlait de sorcières, parce que Chili, il y a une vraie histoire à la île de Chiloé liée aux sorcières. Il avait une société secrète qui s'appelait La Recta Provincia. Je ne sais pas si c'est possible de traduire ça en français.
Littéralement, oui.
Mais littéralement, c'est difficile. Mais c'est une association secrète des sorcières qui a été connue à la fin du 19e, commence du 20e, à cause d'une investigation qu'a fait la justice, il y avait une dispute entre deux sorcières qui finalement est arrivée au tribunal. Et il y a un procès au Chili contre les sorcières de la Recta Provincia. Et au Chili, c'est un secret un peu caché, un peu mystère, l'existence des sorcières, jusqu'à aujourd'hui. Et Luis Alarcón, qui est né au sud du Chili, il avait peur de dire des choses contre les sorcières. Il avait un peu de respect à tout ce monde de magie. Et on a réfléchi, on a partagé avec lui, et on a décidé de parler avec respect, respectueusement,
respect
du sorcier. Et c'est pour ça que dans le film, c'est pas Lovecraft vraiment qui a dit ça, mais on dit dans le film que les sorcières font une espèce d'équilibre contre cette force maligne. Oui? Et c'est bizarre parce que sur le cinquième Cochrane, que je suis en train d'écrire déjà, ça passe à Chiloé, l'année 1820, et je reviens sur le sujet de la recta provincia. Et on dirait que c'est la île de Chiloé qui a inspiré, il y a des gens qui disent ça, à Lovecraft, pour situer la cité perdue de Raleigh, qui c'est de la mythologie de Lovecraft aussi, qu'il y a une liaison, qu'il a été inspiré aussi pour la mythologie du Chili. C'est-à-dire que c'est très fort, c'est très intéressant, c'est très riche, et ça a été un bon conseil que nous a donné un acteur avec grande expérience, comme Luis Alarcón, pour les scénarios. Je pense que ça, pour moi, ça a été une chose importante aussi. Et écouter un autre point de vue. Oui, bien sûr, parce que c'est un clin d'œil, parce que c'est lui qui a inspiré un peu les montagnes hallucinées de Lovecraft, avec son roman Arthur Gordon Pym. J'avais envie de faire un double hommage. Et le bâtiment qui, à l'époque, a été presque abandonné au Chili, a été rebaptisé pour nous, avec cette plaque fosse que notre directeur artistique a mis en place, une fosse béton, comme bâtiment Gordon Pym. Oui, c'est un double clin d'œil. Bien vous. Oui, c'est notre deuxième assistante réalisateur, à l'époque un jeune homme.
Ah oui, d'accord, c'est le même réalisateur qui
est présent. Oui, oui, oui. Oui, c'est lui, tous les moments quand le personnage principal prend le train pour aller au sud, cette journée, ça a été réalisé par Pablo.
D'accord.
Oui, parce qu'on a travaillé la deuxième partie, on a changé de producteur en terrain. Est arrivée Christina Littin, la fille de Miguel Littin, le réalisateur. Elle avait un groupe de gens très jeunes, très doués. Et Christian Petit-Laurent, qui après est devenu chef opérateur au Chili, un écrivain aussi. Et Pablo Larraín, qui à l'époque avait travaillé comme deuxième assistant aussi pour Miguel Littin, pour un film basé sur un roman de Luis Sepúlveda, Tierra del Fuego, La Terre de Feu. Et c'est comme ça que Pablo Larraín est arrivé sur notre tournage à la deuxième partie. Il a très bien travaillé, il apparaît à la fin, quand le personnage sort de l'hôpital, il y a deux personnes qui traversent la rue, c'est le directeur artistique et Pablo Larraín.
C'est très Hitchcock.
Oui, oui.
J'avais juste une dernière question.
Oui, oui.
C'était plus un avis. Qu'est-ce que vous pensez des adaptations de manga de Watanabe, de Lovecraft? Je ne sais pas si vous avez vu comme
chez vous. Ah, sont magnifiques. Magnifique, les montagnes hallucinées. J'ai décidé de lire l'adaptation de Tanabe de les montagnes hallucinées que David m'a prêté. J'ai encore les exemplaires chez moi. Et j'ai décidé de lire ça à la fin de l'écriture de quatrième Cochrane, parce que c'est Lord Cochrane dans les montagnes hallucinées. Et j'avais peur de lire Tanabe, que c'est vraiment magnifique, et d'arrêter l'écriture. Oui. C'est le meilleur. Breccia aussi, il a adapté la couleur tombée du ciel. Oui. Et c'est, à mon avis, la meilleure adaptation Lovecraftienne aussi. Oui. Meilleur que au cinéma.
Oui, je...
Meilleur que au cinéma.
À reproduire à l'image, peut-être par la BD ou le manga.
Oui, parce qu'il a choisi un style pas réaliste qui va bien aussi avec les contes. J'avais écrit un scénario pour adapter les couleurs tombées du ciel. J'ai une version long métrage que j'ai travaillé avec une bourse de cinéma une fois à Madrid, mais je n'ai pas réussi à être content avec la version finale. Et j'ai lu que John Carpenter avait envie de tourner aussi la même histoire. Il a passé 10 années de sa vie pour chercher aussi un bon scénario. Il l'a quitté. Je me suis dit, ah oui, ok, ça va. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon...
Moi, j'ai juste une question peut-être pour finir.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le titre? Pourquoi ce titre?
Ah, ok.
Chilean Gothic?
Oui, oui.
Voilà.
Oui, ça, c'est un titre qui cache un peu l'allégorie politique du film, parce que les choses qui m'ont motivé vraiment pour écrire le scénario, c'était que je viens aimer la littérature de Lovecraft, Mais à l'époque aussi, c'était la transition à la démocratie au Chili. Pinochet était encore vivant. Les militaires avaient encore un grand pouvoir. Et il avait beaucoup d'assassins qui étaient libres dans la rue, sans être punis encore. Par exemple, la future, à l'époque, présidente Bachelet, elle s'est rencontrée une fois dans l'ascenseur avec l'homme qu'elle avait torturé 20 années avant, à elle et à sa mère, avec l'homme qu'elle avait torturé, un ex-militaire. Et le militaire l'a reconnu, il a fait comme ça. Il s'est échappé pour le parking, mais il était libre à l'époque, sans punition. Ça a été le Chili des années 90. Et, c'est-à-dire qu'il avait des monstres qui traversaient librement la rue. Et comme ça, j'avais envie de faire une espèce d'allégorie de tout ça aussi, à propos de la narration de Lovecraft, le pinteur qui fait des peintures de monstres. Et les monstres sont libres encore. C'est un peu la liaison.
Je vous remercie pour votre présence et je remercie tout spécialement nos trois invités, Gilberto Villarroel, David Molman et Romain Zatarin, qui nous ont accompagnés cet après-midi et qui vous ont raconté, je pense, plein de choses intéressantes. Et j'espère qu'on pourra refaire une autre année, peut-être, une activité comme celle-ci. Je vous remercie.
Merci à vous. Merci beaucoup.